à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Antoine d'Aragon, bonjour.
Bonjour monsieur.
Antoine d'Aragon, vous avez 68 ans. Vous êtes le fils de Charles d'Aragon, un grand résistant bien connu dans le Tarn. Vous êtes marié, vous avez 5 enfants. Une grande partie de votre carrière s'est faite chez Airbus. Vous avez été en charge notamment du support pour la Russie et une partie de l'Afrique subsaharienne. Vous parlez le russe et l'anglais couramment, bien évidemment. À l'âge de 55 ans, vous quittez Airbus pour reprendre l'exploitation familiale à côté d'Albi, dans un village dénommé Saliès. Et vous êtes aujourd'hui, entre autres, président du syndicat des forestiers du Tarn.
Effectivement, je m'occupe maintenant depuis une douzaine d'années du syndicat des forestiers privés du Tarn. Je suis toujours intéressé à la forêt. Et donc, j'essaye de défendre le mieux que je peux les intérêts des propriétaires forestiers et les intérêts de la forêt. Cette année, c'est particulièrement intéressant puisque nous avons des problèmes qui sont des problèmes d'incendie et qui, d'une certaine façon, pour un département comme le Tarn, sont des problèmes nouveaux. C'est-à-dire que pour le forestier tarnais, le danger, l'ennemi, c'est le chevreuil et le cerf qui font des dégâts considérables. Et on se retrouve avec les chaleurs et la pluviométrie qui est inexistante, chaleur importante, pluviométrie inexistante, on se retrouve devant des situations qui sont en fait beaucoup plus proches des situations qui sont connues par les départements de l'arc méditerranéen, c'est-à-dire été très chaud, pluviométrie très faible et donc risque d'incendie accru. Donc ce risque qui était un risque potentiel mais qu'on regardait de façon un peu lointaine, on est aujourd'hui obligé, dans des départements qui sont au nord des départements de l'arc méditerranéen, on est obligé de les regarder différemment.
Alors, c'est vrai qu'on a un été qui a été particulièrement redoutable. J'ai noté qu'on avait plus de 55 000 hectares de forêts qui ont brûlé pendant l'été sur tout le territoire, principalement dans les Landes et en Gironde. Est-ce que le Tarn a été touché par des incendies plus que d'habitude aussi ou pas ?
Non, pour l'instant, il y a eu quelques petits incendies, mais il n'y a pas eu d'incendie majeur dans le Tarn. Mais il est certain que ça fait partie des choses que chaque propriétaire, aujourd'hui, a à l'esprit ce risque, ce qui n'était probablement pas le cas avant. Et quelque chose de symptomatique, c'est la première année que je reçois des appels d'adhérents qui me demandent comment peut-on s'assurer contre l'incendie.
Il y a un débat qui est revenu cet été avec les grands feux de forêt qui semble opposer deux visions différentes de ce que doit être une forêt. Une vision traditionnelle, je dirais, celle que vous venez de décrire, c'est-à-dire des forêts exploitées, entretenues, débroussaillées avec des coupe-feux, sur lesquelles on va faire des coupes rases souvent sur un certain nombre d'hectares assez régulièrement. Et puis ensuite, une forêt plus version, je dirais, écologique, écologiste, qui est une forêt primaire dans laquelle il faudrait ne rien toucher et rendre la nature à elle-même. Mais évidemment, et ce débat est ressorti à l'occasion des grands feux de forêt, est-ce que finalement ces forêts primaires, avec toutes les bonnes intentions qu'il peut y avoir derrière d'un point de vue écologique, ne sont pas de véritables dangers en cas d'incendie ? Est-ce que vous êtes touché par ce phénomène ? D'abord, est-ce que vous partagez cette analyse ? Et est-ce que ça concerne aussi des forêts tarnaises ?
Bon, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y a beaucoup de forêts primaires. Il y a des forêts qui sont mieux entretenues que d'autres. Je pense que les forêts qui ont une certaine surface, les propriétés qui ont une certaine surface, sont généralement un peu mieux entretenues pour différentes raisons. La première, je parle de la forêt privée qui recouvre 75% de la forêt à peu près. Hein. Quand vous êtes propriétaire de plus de 25 hectares, et ça concerne quand même une grosse partie de la forêt, vous êtes tenu de suivre un plan simple de gestion, de l'établir et de le suivre. Ce plan simple de gestion prévoit un certain nombre d'actions que vous allez devoir mener pendant toute la durée de ce plan, la durée du plan étant allant, tout dépend de la durée que vous décidez au départ, entre 12 et 18 ans.
C'est sous la responsabilité des chambres d'agriculture ?
Non, pas du tout. Le plan simple de gestion est préparé par le propriétaire ou la personne à qui il demande de le faire, qui peut être un expert forestier, par exemple, ou une coopérative, mais il est validé par les centres régionaux de la propriété forestière, le CRPF. Le CRPF est un établissement public administratif qui sont composés de gens qui sont des techniciens et des ingénieurs, dans lequel vous avez des élus qui sont administrateurs du CRPF et des fonctionnaires. C'est un établissement public. Les CRPF...
Et ils ont les moyens d'imposer aux propriétaires l'entretien de leur forêt ?
Alors, ils ont les moyens... D'une part, ils sont chargés de contrôler l'élaboration du plan simple de gestion et de l'approuver. Si ce plan simple ne leur convient pas, ils peuvent demander aux propriétaires d'apporter à ce plan des modifications. Et 15 ans après... 15 ans ou 12 ans ou 18 ans, quand on renouvelle le plan, on regarde ce qui a été fait, et si le plan, le propriétaire a appliqué ce qui était inscrit dans le plan. Il peut avoir eu des raisons de ne pas l'appliquer, parce que les arbres ont poussé moins vite, parce qu'il n'a pas pu faire telle ou telle coupe, mais c'est quand même quelque chose de suivi. On ne fait pas en France n'importe quoi avec sa forêt. Et si on n'a pas de document de gestion durable, on ne peut pas s'amuser à faire des coupes au-delà d'une certaine surface sans obtenir une autorisation de l'administration. Et en France, quand on coupe, on est censé reboiser ou en tous les cas revenir à un état boisé. Donc le déboisement sauvage n'est pas quelque chose
n'est pas une réalité. Si je vous suis bien, l'État a quand même mis en place les moyens de vérifier que les propriétaires privés, vous avez dit 70% de la forêt française, 75%, ont l'obligation d'entretenir leur forêt, ce qui limiterait les feux. Or,
j'ai pas dit l'obligation d'entretenir la forêt pour limiter les feux. L'obligation de respecter un document de gestion quand ils ont plus de 25 hectares, et l'interdiction de faire n'importe quoi, notamment de couper n'importe quoi, quand ils veulent couper plus d'une certaine surface et qu'ils n'ont pas de document de gestion. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Mais alors, je ne comprends pas très bien, parce que les incendies qu'il y a eu au début de l'été à La Teste en particulier, on a dit dans la presse et un peu partout que c'était une forêt qui appartenait de façon collective à tout un tas de petits propriétaires et qui n'était pas entretenue, c'est-à-dire qu'elle n'était pas débroussaillée, qu'il n'y avait pas de coupe-feu suffisant, et que c'est la raison pour laquelle les pompiers ne sont pas arrivés à maîtriser l'incendie aussi vite qu'ils auraient pu. Donc ça paraît en contradiction. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer, durcir la réglementation ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour essayer d'éviter que ça ne recommence tous les ans dès qu'il fera un peu trop chaud ?
Mais ce que je crois... Non, plus vous avez de propriétaires sur des petites surfaces, plus vous avez du mal à trouver un responsable qui veuille gérer l'ensemble. C'est une constatation qu'on fait tous les jours dans tous les domaines. Je crois que ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens. Alors, ce qui est arrivé cet été, ça va permettre de les sensibiliser. Bien que j'ai vu l'autre jour un abruti dans ma commune qui s'est amusé à minuit à tirer des feux d'artifice. Et quand même le faire, alors que les radios ne faisaient que parler d'incendie de forêt dans les Landes. Bon, donc, mais je crois qu'il faut communiquer, sensibiliser les gens, leur montrer l'intérêt qu'il y a à débroussailler, l'intérêt qu'il y a à entretenir les forêts, l'intérêt qu'il y a à maintenir des chemins ouverts de façon à pouvoir faciliter le passage des engins. Je crois que tout ça, c'est du bon sens. Donc, je crois qu'il faut... Il est très compliqué de faire appel à la loi. On peut le faire, mais il faut surveiller l'application de la loi. C'est compliqué. Par contre, je pense que sensibiliser les gens, c'est très certainement une priorité. La prévention est quelque chose de terriblement pas important. Si je prends le cas du Tarn, vous avez dans le Tarn ce qu'on appelle un plan de défense contre les feux de forêt, le PDFCI ou PPDFCI. Ce plan prévoit un certain nombre de choses, notamment un inventaire des voies d'accès, un inventaire des équipements des FCI, etc. Il prévoit également que sur une cinquantaine de communes du département, ces communes sont soumises à ce qu'on appelle des OLD, des obligations légales de débroussaillage. Alors, c'est assez compliqué, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque maire. On ne peut pas avoir en permanence des gens qui vous disent « Ah monsieur, vous n'avez pas débroussaillé autour de votre maison ». Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, très probablement inciter les gens à beaucoup plus respecter ces consignes. Elles le sont certainement de mieux en mieux, d'après ce que j'ai compris dans le département. Et elles le seront probablement encore plus, puisqu'aujourd'hui, les gens vont se mettre à avoir peur. Comme je vous disais tout à l'heure, la peur du forestier autrefois, c'était le chevreuil, et je pense qu'aujourd'hui, le feu va probablement passer devant le chevreuil.
Bien écoutez, espérons que la prise de conscience sera telle qu'on pourra limiter la propagation des feux. Je crois que se dire qu'on arrivera à empêcher les feux de forêt, ça c'est une illusion. En tout cas, limiter leur propagation, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Alors, Monsieur Dragon, je voulais profiter également de votre expérience dans votre vie antérieure à celle de forestier, qui est votre vie chez Airbus. Vous avez, pendant 25 ans de votre vie, arpenté un certain nombre de pays, et en particulier la Russie et l'Ukraine. Vous parlez le russe, pas très couramment, mais suffisamment pour comprendre ce qui se dit et pour vous faire comprendre. Je crois savoir que vous avez des amis qui avec lesquels vous êtes resté en contact, aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Évidemment, je ne résiste pas à vous avoir là, à vous poser la question de que pensez-vous de la situation. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait? Comment on peut espérer sortir sans trop de dégâts de cette situation? Votre regard nous intéresse.
C'est une question compliquée auquel je vais essayer de ne pas répondre de façon trop simple. Alors, je crois d'abord, et je me souviens d'un commentaire qu'avait fait le Saint-Père il y a quelques semaines ou quelques mois, en disant que pour analyser les choses, il faut éviter de dire qu'il y a les bons et les méchants. On arrive difficilement à comprendre quelque chose si on n'évacue pas un peu toute passion. Je pense qu'il faut analyser sans juger et éviter de dire dès le départ qui est le bon et qui est le méchant. Sinon, ça fausse tout le reste du raisonnement. Même ce qui n'empêche pas d'avoir sa propre idée là-dessus. Alors, je pense que M. Poutine a commis, en envahissant l'Ukraine, sa plus grave erreur. Je fais une comparaison qui est idiote, mais Napoléon en avait commis deux. L'Espagne et la campagne de Russie. Je ne suis pas sûr que M. Poutine gagne grand-chose dans cette affaire. Il y a des chances quand même qu'il gagne le Donbass, qu'il le garde, ainsi que la bande qui s'étend du Dniepr à la mer d'Azov et qui permet de relier le Donbass à la Crimée. Mais il aura obtenu ça au prix de dizaines ou de centaines de milliers de victimes. Mais je ne suis pas sûr qu'à court terme, ça soit le plus grand perdant. À long terme, oui, pense. Mais à court terme, je pense que c'est probablement l'Europe qui va le plus souffrir. Alors, il y a quelque chose qu'on ignore un peu, c'est la formation de l'Ukraine.
Oui. Poutine revendique l'Ukraine comme étant ayant toujours été la Russie, mais c'est pas aussi simple.
On va pas remonter à la Russie qui est Vienne, on va pas remonter au Xe siècle, mais remontons tout simplement, pour commencer, à la fin du XVIIe. À la fin du XVIIe, on a un peu la situation suivante. Alors, je schématise. Hein. Vous avez à l'est du Dniepr, l'est du Dniepr est sous domination russe. L'ouest, polonaise. Et quant au sud et au sud-est, c'est là, on est sous l'emprise de la Sublime Porte. Hein. Puis les Russes, au XVIIIe siècle, vont s'étendre vers le sud, ils vont récupérer ces territoires qui dépendaient de la Turquie, et ils vont ensuite, ça c'est au XVIIIe, ils vont ensuite, fin XVIIIe et début XIXe, ils vont s'étendre, asseoir leur autorité sur la Crimée, sur le centre et une partie de l'ouest de l'Ukraine actuelle. Donc on récupère d'abord la Crimée et ensuite... Alors, si vous regardez cela, la russification qui a eu lieu sous les tsars et sous les soviétiques, en voie de travailleurs russes dans l'Est industriel, etc., vous avez un peu l'explication du clivage qu'il y a aujourd'hui entre une partie du territoire centre et ouest qui regarde vers l'Europe et une autre qui est d'autant plus attirée vers la Russie que le statut de la langue russe a été récemment dégradé. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est que lors du référendum de 1991-92 sur l'indépendance de l'Ukraine, le oui a été majoritaire partout. Il a été très fortement dans l'ordre de 90 ou 95% dans le centre et l'ouest, au-delà de 80% dans l'est, et un peu plus entre 50 et 60 en Crimée. Mais ce qui est amusant, c'est que par la suite, tous les oblasts orientaux et méridionaux ont généralement ensuite beaucoup plus voté aux élections présidentielles pour les candidats russophones et russophiles que les autres. Je pense notamment à Yanukovych en 2004 et 2010.
Ce que vous nous dites finalement, c'est que si on suit l'histoire, il y a quand même une volonté d'indépendance de l'Ukraine et que cette volonté a été renforcée par le coup de force russe. Donc ça va être difficile pour la Russie d'annexer l'Ukraine et d'en faire une province contre la volonté de la population, c'est ça?
Je ne crois absolument pas, moi, à l'annexion de l'Ukraine.
C'est quand même la volonté de Poutine.
Oui, mais pas les moyens, à mon avis. Par contre, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il risque quand même de garder dans son portefeuille ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Donbass.
Oui, et faire le lien avec la Crimée.
Et faire le lien avec la Crimée.
Oui, entre la Crimée et le Donbass, ça veut dire qu'en l'espace de 10 ans, il aura quand même pris un quart ou plus d'un quart de...
Ah non.
Le Donbass, c'est quand même une partie, plus la Crimée, ça fait une partie importante du territoire. Donc est-ce que vraiment c'est acceptable?
Ça parce qu'on s'enlise là-dedans aujourd'hui.
Oui, on s'enlise parce que les Ukrainiens ne veulent pas abandonner tout ça, même sur la Crimée. Bon, la Crimée, ils accepteraient peut-être, mais le Donbass, ils n'ont pas l'air prêts à l'accepter. Et les Russes n'ont pas envie de repartir sans rien. Donc, on voit difficilement l'issue. Mais je voudrais aborder la question un peu sous un autre angle. J'ai été très intéressé cet été par un article paru dans le Figaro de Pascal Bruckner, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, qui disait au fond, c'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de civilisation. Et il reprend ce qu'avait dit Solzhenitsyn au bout de quelques années passées aux États-Unis. Solzhenitsyn avait dit « Quand la Russie sortira du communisme, elle voudra reprendre une hégémonie sur la civilisation chrétienne telle qu'elle le conçoit, en se considérant comme les gardiens du temple de la civilisation chrétienne. » Et il reprochait notamment aux Américains et à la culture anglo-saxonne, d'avoir, au fond, dévoyé cet héritage chrétien en ayant trop privilégié l'individualisme, et c'est vrai qu'il y a un très fort individualisme dans le monde anglo-saxon, et le communautarisme qu'on voit monter à travers les mouvements woke, les mouvements LGBT, les mouvements racialistes. Au fond, est-ce que les Russes ne sont pas dans une logique de s'opposer à une évolution de la civilisation occidentale qui ne leur convient pas? Et c'était la question qu'abordait Bruckner. Est-ce que vous avez cette perception?
Alors, Je ne suis pas du tout sûr que les dirigeants russes soient des très grands chrétiens. Moyennant quoi, je pense qu'ils s'appuient sur le, christianisme et sur l'orthodoxie. L'orthodoxie étant un petit peu assimilée à la Russie, à la Russie traditionnelle. Je pense que, d'une certaine façon, la Russie nous reproche ces valeurs qui viennent de je veux dire, peut-être d'une partie plus protestante du christianisme que de la partie catholique, et qui sont effectivement ce que vous évoquiez tout à l'heure, le wokisme, les mouvements, les minorités LGBT, etc., etc., qui ne sont pas du tout la tasse de thé de M. Poutine. Mais c'est un petit peu, on pourrait faire la même comparaison avec le rejet de ce type de valeurs qui sont celles exprimées par les mouvements musulmans. Je pense que ce qu'on nous reproche beaucoup dans le monde musulman traditionnel, c'est justement la mise en avant de ces valeurs qui sont totalement rejetées par l'islam, de même que les Russes regardent avec un profond mépris le développement de ce qui nous vient des États-Unis. Alors, on a d'un côté une Russie qui est omniprésente dans la vie de ce pays et qui voit avec énormément d'inquiétude son rapprochement avec l'Occident. Et de l'autre côté, nous avons les États-Unis qui est omnipotente en Europe et qui voyait avec inquiétude le développement d'une Europe unie et encore plus un rapprochement pacifique avec le voisin russe. Alors les Américains, ils se sont mis à dragouiller les Ukrainiens, tandis que les Russes voyaient avec beaucoup d'inquiétude arriver l'échéance de l'accord leur permettant d'utiliser le port de Sébastopol, qui est le seul port militaire russe en eau chaude. Parce que Novorossiysk, à 300 km à l'est, n'offre pas autant de tirants d'eau aux bateaux russes. Alors, en même temps, qu'est-ce qui se passe en 2014? Il y a une remise, on a relégué la langue russe au rang d'une langue étrangère, et ce qui a énormément déplu à tous les gens qui sont purement russophones et qui sont à l'est du pays. Et alors, il suffisait à ce moment-là aux Russes de souffler sur les braises. Alors, entre nous soit dit, je ne pense pas que aucun, ni les Russes, ni les Ukrainiens, aient essayé avec beaucoup de bonne foi de travailler sur les accords de Minsk. Alors, honnêtement, je crois, mon sentiment à moi, c'est que nous sommes totalement trompés au début des années 2000, sous l'influence américaine, nous avons repoussé la Russie et je pense que nous sommes trompés d'ennemi. Je dis à l'époque, parce que l'explication n'est pas adhésion. Honnêtement, je ne crois pas à un danger russe à long terme pour une raison très simple. Vous avez un territoire qui représente 11% des terres habitables et une population qui est inférieure à celle de la France et de l'Allemagne réunies, avec une pyramide des âges qui ressemble à un bonhomme Michelin. La Russie, c'est un gigantesque émirat qui ne vit que de l'exportation de matières premières, ou essentiellement, et dont le PIB est inférieur à celui de l'Espagne. Donc, le véritable ennemi de la Russie, c'est la Chine. Et c'est probablement aussi celui de l'Occident. Alors, c'est aujourd'hui trop tard. Et je pense qu'une fois de plus, l'Amérique a fait un mauvais calcul. Parce que suite à cette attaque injustifiable de M. Poutine, comme était injustifiable d'ailleurs le pilonnage du Donbass pendant 8 ans, nous sommes dans une impasse. Aucun de mes amis ukrainiens n'envisageait cette attaque, cette invasion de la Russie. Ils la craignaient seulement dans le Donbass. Alors, la guerre va durer. Il faut simplement souhaiter que les Russes ne fassent pas trop de bêtises. Et les Européens, ils sont isolés dans un monde qui s'en fout. Et ils vont se diviser. C'est ça, pour moi, le gros risque aujourd'hui. Parce que l'Allemagne n'acceptera pas la récession et fissurera l'Union. Pour moi, le vrai danger aujourd'hui, il est à Taïwan. Et les Chinois n'auront aucun besoin de surveiller leurs arrières, puisque la Russie sera devenue momentanément un allié objectif. Alors je dis merci, d'ailleurs, avec ce risque de Formose, je dis merci aux vieillards qui dirigent l'Amérique, et tout particulièrement à Mme Pelosi, dont on peut craindre qu'elle ne passe à la postérité pour les mêmes raisons que Gavrilo Princip.
Bien, Antoine d'Aragon, merci pour ces éclairages fort intéressants. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un interview la semaine prochaine. Merci.